Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles dans
le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour et bienvenue dans le chaudron des découvertes, premier enregistrement 2025. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Arthur. Alors Arthur, mais qui es-tu ?
Eh bien, bonjour déjà. Eh bien oui, je m'appelle bien Arthur. Bonne année d'ailleurs, c'est la première émission de 2025. Bien moi, je suis comédien tout simplement. Voilà, je fais du théâtre depuis quelques années maintenant. Et accessoirement, j'ai une petite passion pour le Chili, voilà.
Voilà, et ben voilà, il m'a filé le virus. Et en fait, Arthur, il m'a fait découvrir un roman graphique incroyable dont on va parler. Et effectivement, il nourrit une passion pour un personnage qui a eu un rôle important à une époque au Chili. Je veux parler de Victor Jara. Et donc, je te laisse la parole, Arthur.
11 septembre 1973, Santiago, Chili. Joan Turner et son mari, Victor Jara, prennent leur petit déjeuner en compagnie de leurs deux filles, Manuela et Amanda. La famille écoute la radio et les nouvelles ne sont pas bonnes. Des mouvements militaires inhabituels sont signalés du côté de Valparaiso. Immédiatement, Victor saisit la gravité de la situation. Un coup d'État est en cours. Lui qui devait aller chanter lors d'un vernissage en l'honneur des victimes du fascisme, en présence du président Salvador Allende, comprend que l'événement n'aura pas lieu. Il décide de se rendre à l'université de Santiago, répondant à l'appel technique de la centrale unique des travailleurs. Pendant ce temps, Joan, comme tous les jours, amène ses filles à l'école et constate qu'une agitation sans précédent anime Santiago. Des tanks sont déployés un peu partout, des hélicoptères survolent la ville. Le coup d'État se répand un peu partout. Rentrée chez elle, Joan apprend que le palais présidentiel La Moneda est bombardé. Allende, retranché, prononce ce qui restera dans l'histoire comme son dernier discours sur l'unique canal radiophonique encore épargné par les bombardements.
El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
J'ai confiance dans le Chili et en son destin. D'autres hommes sauront dépasser ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer. Allez de l'avant, et sachez que dans un moment plus proche que lointain, s'ouvriront à nouveau les larges avenues par où s'avancera l'homme libre pour construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas inutile. J'ai la certitude qu'il sera tout au moins une leçon morale pour châtier la félonie, la cowardise et la trahison. Et quelques minutes plus tard, Allende se suicide.
Hélas, triste sort d'Allende et de Victor Jara, un chanteur populaire et engagé du Chili. C'est vrai que quand on prononce le mot Chili, on a souvent une image un peu folklorique, musique, Pablo Neruda, Cordillère des Andes, soit une image de violence, coup d'État et Pinochet. Géographiquement, le Chili s'étend sur une bande de 4300 km de long entre l'océan et la cordillère des Andes et sur une largeur de 90 à 440 km. C'est une terre sismique qui a subi des tremblements de terre et, comme le dit le narrateur du premier roman graphique, l'instabilité du sol est loin d'être responsable de tous les malheurs du peuple chilien. Alors, le roman graphique que tu m'as fait découvrir, Arthur, est constitué de deux tomes. Le premier tome s'intitule « Là où se termine la Terre », Chili 1948-1970. Et le deuxième tome, c'est Le temps des humbles, Chili 1970-1973. Ce roman graphique va nous faire découvrir un récit puissant et riche où apparaît une foule de personnages, dont Victor Jara. Les auteurs et autrices sont Désiré et Alain Frappier. Et ils travaillent ensemble, ils font des recherches historiques et biographiques assez poussées et vont chaque fois chercher des témoignages. Donc deux pavés à lire et soit on avale le récit, tant celui-ci vous happe, mais vous savez qu'il faudra y revenir car vu la multitude d'informations, tout ne peut se digérer, c'est mon cas. Soit on y va tranquillement, avec modération et on savoure tout ce que l'on découvre ou comprend. Comment tu as fait toi Arthur ?
Eh bien, j'ai été un peu comme toi, Jacqueline. J'ai un peu dévoré le roman, enfin les deux romans graphiques. Après, j'ai l'habitude de lire assez rapidement et c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Et je ne te cache pas que j'ai dû les réemprunter deux, voire trois fois maintenant.
Alors, revenons à Victor Jara.
Joanne s'inquiète, elle n'a plus de nouvelles de Victor et ne dispose d'aucun moyen pour le joindre. Elle sait que s'il est pris par la milice, il risque gros. Il représente un des symboles de l'unité populaire, le nom du mouvement qui a fait élire Allende 3 ans plus tôt. Les jours passent, toujours aucune nouvelle de Victor. Durant ce temps, la dictature s'est déclarée au grand jour, sous la forme d'un général, le général Pinochet, celui-là même qui, quelques jours auparavant, avait juré fidélité à Allende. Lui, il a des lunettes fumées, les lèvres pincées. Les partis d'opposition sont supprimés, les médias indépendants supprimés. Des rafles ont lieu en masse dans tout le pays, notamment à Santiago, où les supposés sympathisants de gauche sont retenus prisonniers au stade national, faute de place ailleurs, le Veldiv du Chili en quelque sorte. Au menu interrogatoire, torture, exécution sommaire. Toujours sans nouvelles de son mari, Joanne désespère, jusqu'au jour où l'on frappe à sa porte. Face à elle, Hector Herrera, 23 ans, fonctionnaire de l'état civil. Depuis une semaine, il est réquisitionné de force pour identifier les corps qui s'accumulent à la morgue de Santiago. Et dans cet amas de malheureux, il a reconnu le chanteur Victor Jara, ou du moins ce qu'il en reste. Prenant son courage à deux mains, à l'insu de ses supérieurs militaires, il a pris la liberté de venir avertir celle qui est désormais veuve. Il l'emmène discrètement sur place. Elle reconnaît à peine son mari. Il a été lynché, ses mains broyées, des traces de coups, d'impact de balles sur tout le corps. Avec la complicité d'Hector, elle réussit à faire enterrer son mari clandestinement au nez et à la barbe des autorités compétentes. Le jour de l'enterrement, ils sont trois à rendre hommage à l'un des chanteurs les plus populaires de son pays. Dans la précipitation, personne n'a pensé à acheter une couronne de fleurs. Qu'à cela ne tienne, le fossoyeur prend la liberté d'aller se servir sur la tombe d'un autre. Joanne enterre l'être aimé. Et avec Victor sont enterrés les espoirs et les illusions d'un peuple qui, durant 3 ans, plus précisément 1000 jours, s'est surpris à imaginer une société nouvelle. Le Chili rentre à présent dans une nouvelle ère, l'ère de la dictature. Une chape de plomb qui recouvrira le pays pendant 17 ans.
Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquier, lo fumo, boto la cola y recójala el que quiere. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Thank you. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de habara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
Et oui, malheureusement, Victor Jara ne sera pas la seule victime de ce coup d'État. Et oui, cette dictature, comme tu l'as dit, 17 ans, a fait plus de 20 000 morts ou disparus et provoqué l'exil d'un million de personnes sur une population chilienne d'à peu près 10 millions en 1973. Dans ces deux romans graphiques, les auteurs s'appuient sur les témoignages de Pedro pour le premier tome et celui de Soledad dans le deuxième. D'origine sociale différente, tous deux sont nés au Chili et ont vécu leur enfance et leur adolescence dans ce pays. Et évidemment, ils ont quitté le Chili pour se réfugier en Europe. Ils s'y mêlent donc dans ces deux tomes la vie quotidienne des Chiliens et l'histoire du pays. C'est tout à la fois de la sociologie, de l'histoire, de la culture, les arts et bien sûr la politique nationale et internationale. Dans les deux tomes, on vibre avec ces acteurs jeunes, remplis d'énergie, de projets sociétaux et de convictions politiques, des militants qui vont souvent se questionner et puis se heurter au fil des années à des désillusions et des peurs, puisque le deuxième tome s'arrête en 1973, date du coup d'État. Ce n'est pas vraiment une vision journalistique. Les auteurs s'effacent derrière les témoignages ancrés dans le quotidien de ces Chiliens et les soubresauts d'un pays où les très riches n'ont pas très envie de laisser la place à ces gauchistes pleins d'idées de partage et de vie collective, rebelles à l'humiliation des pauvres ouvriers agricoles par les grands propriétaires terriens, ou à la mainmise des États-Unis sur les ressources du Chili et de sa vie politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est dense et il va s'embasser pendant toutes ces années. En tant que lectrices et lecteurs, nous accompagnons l'évolution de ces deux témoins depuis leur naissance jusqu'à leur maturité et leur choix de vie, leurs revendications et l'espoir mis dans la venue au pouvoir d'Allende. Il y a toute une part BD et une part informative très riche sur les événements nationaux et internationaux par le filtre du vécu de ces jeunes militants. Mais au fait, Arthur, qui était Victor Jara ?
Alors, Victor Lidio Jara Martinez est né en 1932 dans la province de Nublé, au sud de Santiago, au sein d'une famille paysanne modeste. Sa mère, Amanda Martinez, aime fredonner des airs populaires en s'accompagnant à la guitare, et c'est elle évidemment qui lui transmettra sa passion de la musique. Hébergé chez une amie de sa mère, il commence des études de comptabilité qui ne le passionnent guère. À un moment donné, il rentre même dans les ordres pour devenir prêtre, mais finalement, il en sort. Et un jour, Victor tombe sur une annonce placardée dans son université qui propose de chanter Carmina Burana avec le chœur de l'établissement. Il s'y rend et très vite, il devient le ténor du groupe. Alors, très vite, la troupe sillonne le pays pour chanter et durant son temps libre, Victor se passionne déjà pour les musiques populaires locales qu'il entend au détour des rues. Alors, parallèlement, Victor Jara découvre aussi le théâtre et passe avec succès le concours d'entrée de l'école de théâtre de l'université. Il développe son art d'abord en tant qu'acteur, puis enfin il se frotte à la mise en scène. Commence alors pour Victor des années de bohème entre cours de théâtre, concerts et soirées à refaire le monde entre amis musiciens et penseurs. Car Victor Jara ne délaisse pas la musique pour autant, au contraire. Il continue de voyager dans le pays pour recueillir les musiques traditionnelles chiliennes et c'est à cette époque qu'il rencontre Violeta Parra. Violeta Parra est une chanteuse chilienne, figure de proue de la Nueva Canción. C'est un mouvement musical issu de la musique folklorique latino-américaine qui émerge dans les années 60. Pendant sud-américain de la protest song qui sévit au même moment aux États-Unis, menée entre autres par Bob Dylan et Joan Baez, la Nueva Canción souhaite se réapproprier sa culture musicale à travers des textes puissants et engagés en faveur de l'émancipation des classes laborieuses. Violeta encourage le jeune Victor à composer ses propres chansons, sentant chez lui déjà des prédispositions. Et rapidement, Victor enregistre son premier morceau. À l'université, Victor rencontre une jeune danseuse anglaise qui donne des cours. Le coup de foudre est immédiat, elle s'appelle Joan Turner. Le couple s'installe ensemble avec Manuela, la première fille de Joan, née de sa première union. Et très vite, la famille s'agrandit avec la naissance de la première et unique enfant de Victor, à qui il a donné le nom de sa propre mère, Amanda. En 1963, Victor est nommé à seulement 31 ans directeur de l'Académie folklorique de la Maison de la Culture de Nunoa et intègre l'équipe de direction de l'Institut théâtral de l'Université de Chili. Il multiplie les mises en scène à succès qui l'emmènent sur des tournées internationales en Europe comme en URSS. Et sa pensée se politise, la musique prend petit à petit une place prépondérante dans sa vie. Il se sert de la chanson pour dénoncer le fascisme et toutes les formes d'aliénation. Dans sa chanson « Te recuerdo Amanda », Victor raconte l'histoire d'Amanda, jeune femme qui va rejoindre le temps d'un baiser, son amant Manuel qui travaille à l'usine, durant les 5 minutes de pause dont celui-ci dispose. Sombre prophétie, l'histoire se termine mal, Manuel part dans les montagnes combattre le fascisme d'où il ne reviendra jamais.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Victor Jara s'engage de plus en plus et multiplie les concerts. Il acquiert doucement une certaine notoriété dans le pays. À la question d'un journaliste qui voit en Victor un digne représentant de la Nueva Canción, il répond « Il y en a assez de cette musique étrangère qui ne nous aide pas à vivre, qui ne nous dit rien, qui nous amuse un moment et nous laisse aussi vite qu'avant. » La chanson devient une arme politique pour et au service du peuple. Et cela tombe bien car au même moment dans la sphère politique, une personnalité de gauche gagne en popularité. Il s'appelle Salvador Allende.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie.
El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Cet hymne composé et interprété par le groupe Quilapayún, dont Victor Jara sera le directeur artistique, est écrit en soutien au président Allende en 1973, quelques mois avant le coup d'État.
Et c'est dans toute cette période, avant l'élection d'Allende et puis tout ce qui va se passer après, qu'on retrouve les deux narrateurs, entre autres dans le tome 1, Pedro, petit-fils d'émigré libanais, fils d'un intellectuel chilien, écrivain et proche d'Allende, justement. Et donc, Pedro va se confronter à tous ces événements, affiner sa compréhension et découvrir la misère lors d'un voyage à travers le pays et aussi se questionner. Cette première partie, par le biais de son père, lecteur de journaux, convoque beaucoup d'événements internationaux. Il y a des moments un peu drôles quand le père dit « Le football conditionne le peuple à penser que le système capitaliste est juste », mais qui quand même emmène ses enfants voir un match. Et puis, toute cette effervescence avec le renouveau de la chanson chilienne dont tu parlais, Arthur, avec des artistes qui parlent au nom des opprimés, entre autres, premier acte de désobéissance de Pedro, c'est lors de sa remise de diplôme, il file avant que Frei, le président actuel, puisse lui serrer la main. Et puis, il approche le MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, mouvement de la gauche révolutionnaire, et toujours Victor Jara, qui, pour la première fois, dénonce ouvertement un politique dans une chanson. Il s'en prend directement au ministre de l'Intérieur par rapport à l'attaque de Puerto Montt en 1969 dans un camp qui avait fait 40 blessés et 9 morts, dont un bébé.
En 1970, donc, le pays est dirigé par Eduardo Frei Montalva depuis 6 ans déjà, leader de la démocratie chrétienne, arrivé au pouvoir en 1964 face au candidat socialiste déjà Salvador Allende, qui est soutenu ouvertement par les États-Unis et la CIA, qui a en partie financé sa campagne. À l'approche des élections de 70, les partis de gauche forment une coalition sous le nom d'Unidad Popular, l'unité populaire, ayant pour but l'élection de Salvador Allende. Le programme est audacieux pour transformer l'économie et mettre fin aux injustices sociales. Alors, nationalisation des ressources naturelles, nationalisation des banques, assistance médicale gratuite, réforme agraire, augmentation des salaires, 1 demi-litre de lait gratuit pour chaque enfant. L'objectif d'Allende est d'effectuer une transition démocratique et non violente vers la voie du socialisme. Victor Jara ne s'y trompe pas et voit chez Allende un espoir unique pour améliorer le sort des Chiliens. Et dès lors, il s'engage ouvertement dans la campagne du candidat de la gauche. D'autant qu'à présent, sa parole compte. Jara a acquis une certaine notoriété à l'international. Ses mises en scène sont acclamées par la critique. Et surtout, il a remporté en 1969 le premier prix du Festival de la Nouvelle Chanson Chilienne. On a aussi pu l'apercevoir la même année sur scène à Helsinki, lors d'un meeting mondial de la jeunesse contre la guerre au Vietnam. Le 4 septembre 1970, les résultats tombent. Salvador Allende est élu président de la République. Pour la première fois dans l'histoire, un candidat se réclamant du marxisme est démocratiquement élu à la tête d'un pays. Allende est la preuve qu'une révolution peut avoir lieu sans passer par les armes et les guérillas. Le Che lui-même avait dit « Salvador Allende poursuit le même but que moi, mais par d'autres voies ». À partir de ce jour, Victor se consacre exclusivement à la chanson. Il devient l'ambassadeur culturel du Chili, donnant des tours de chant à travers tout le pays. En 1971, il enregistre ce qui sera une de ses chansons les plus reconnues, El Derecho de Vivir en Paz, qui est vite devenu un symbole de résistance populaire. La chanson est un hommage à Ho Chi Minh et plus largement au Vietnam, meurtri par la guerre menée par les États-Unis.
El Derecho de Vivir.
Dans la première année de la présidence Allende, dopée par le contrôle des prix et les augmentations de salaires, les résultats économiques sont immédiats. Le PIB progresse de 9% et le chômage diminue. En plus de toutes les mesures du programme appliquées, le divorce est légalisé et la sécurité sociale étendue. Mais les partis de droite, avec l'appui des États-Unis, ne voient pas cela d'un très bon œil. Richard Nixon, alors président des États-Unis, déclare devant le Conseil national de sécurité « Notre principale préoccupation concernant le Chili, c'est le fait qu'Allende puisse consolider son pouvoir et que le monde ait alors l'impression qu'il est en train de réussir. Nous ne devons pas laisser l'Amérique latine penser qu'elle peut prendre ce chemin sans en subir les conséquences. » Le message est clair, dorénavant tous les moyens seront bons pour déstabiliser le pouvoir chilien. En 1972, Victor Jara sort un album sobrement intitulé « La Población », soit « La population, le peuple qui vit dans les bidonvilles ». Conçu à la manière d'une chronique, le disque est centré sur les petites choses de la vie. Des enregistrements sont pris sur le vif, un enfant jouant avec un chien, le chant d'un coq, des discussions, etc. La même année, des blocages et des grèves paralysent le pays sur l'initiative des partis de droite, privant les Chiliens de nombreuses denrées alimentaires. Et petit à petit, les classes moyennes qui avaient donné leur voix à Allende reviennent sur leur choix et exigent avec la bourgeoisie la démission d'Allende. Le pays se divise. Pour contrecarrer les effets de la grève, de nombreux ouvriers, en soutien à l'unité populaire, acceptent de travailler gratuitement pour continuer à faire tourner les usines. Partout dans le pays, de nombreux élans de solidarité voient le jour. Mais face à ce climat de tension exacerbé, Allende, pour apaiser l'opinion, décide à contre-cœur de faire entrer des militaires dans le gouvernement. À ce stade, l'armée assure qu'elle restera fidèle à son président. La démocratie s'effiloche, mais tient encore bon. Le 29 juin 1973, un régiment de chars entoure la Moneda, le palais présidentiel. Mené par le lieutenant-colonel Roberto Super, les factieux prennent d'assaut le ministère de la Défense. Mais inférieurs en nombre et isolés, ils sont vite neutralisés. Des images de cette tentative de putsch existent. On y voit les putschistes armés surveillant leurs arrières, quand soudain l'un des soldats remarque le caméraman, le met en joue et tire. Cette journée, malheureusement, ne sera qu'une répétition générale. Le Chili s'apprête à vivre son dernier été sous la présidence d'Allende. Le 11 septembre 1973, la démocratie sombre. Le bombardement de la Moneda débute. Allende, entouré d'une poignée de fidèles, doit se rendre à l'évidence. La force se déchaîne et rien ne peut l'arrêter.
Et on comprend encore mieux, du coup, dans le deuxième tome, Le temps des humbles, l'immense espoir qu'avait suscité Salvatore Allende. Entre autres, à un moment donné, dans le deuxième tome, il y a deux pages sur les 40 premières mesures du programme d'Allende. C'est tellement magnifique. Les auteurs y relatent le témoignage de Soledad dans ce deuxième tome, donc rencontré en Belgique. Soledad est fille d'ouvriers agricoles, pauvres et exploités par leurs propriétaires. Le père, dans l'espoir de grappiller un peu de liberté, décide de quitter la campagne pour s'installer en ville. Mais hélas, ils vont connaître encore davantage la pauvreté. Soledad dit à propos de sa mère, « Elle était capable de nous offrir les plus beaux des Noëls avec 6 ballons de baudruche et 3 caramels. » Un événement va être déterminant pour Soledad en 1970, alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle va rejoindre un campamento, un campement, en fait un bidonville. Elle va s'installer seule dans une tente. C'est une stratégie, car comme ils espèrent qu'Allende va gagner les élections présidentielles, ils pensent que les habitants des bidonvilles auront droit à une vraie maison. Ce sont des lieux collectifs de partage, d'entraide, d'échange. Une véritable découverte pour Soledad et surtout un apprentissage politique. Caisse commune, réunion, manifestation et une grande créativité. Par exemple, il transporte les enfants en charrette jusqu'à l'étape de l'université pour qu'ils puissent dormir au chaud. On est quand même en 1970. Le compagnon que va rencontrer Soledad, Alejandro, est un ancien étudiant qui a lâché l'université pour s'investir dans ses projets collectifs et très politiques. Car, en effet, le pays souffre d'immenses inégalités. Delia, une habitante du campamento, un demi-million de familles sans logis, dans un pays qui ne compte que même pas 10 millions d'habitants, on ne compte plus les enfants qui meurent de malnutrition dans ce pays qui se croit développé. Et le récit va se terminer avec l'arrestation de son compagnon, comme Jara.
Victor Jara, que l'on a quitté se rendant à l'université, est fait prisonnier avec des centaines d'autres personnes. Ils sont amenés au stade Chile et à leur arrivée, Victor est reconnu par un sous-officier. L'occasion est trop belle, il va servir d'exemple. Encore avec ses compagnons, Victor déniche du papier et un crayon et écrit ce qui sera sa dernière chanson. Plutôt son dernier poème, son chant du cygne, et qui, grâce à des complicités, nous est parvenu, Somos 5000.
Somos 5000 aquí. En esta pequeña parte de la ciudad, somos 5000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí 10,000 manos que siembran y hacen andar las fábricas.
Nous sommes 5000 dans ce petit coin de la ville. Nous sommes 5 000. Combien serons-nous en tout, dans les villes et à travers le pays? Rien qu'ici, 10 000 mains qui sèment et font marcher les usines.
Quanta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte.
Combien de gens qui souffrent de faim, de froid, de peur, la douleur, de pression morale, de terreur et de folie. 6 d'entre nous se sont perdus dans l'espace des étoiles. L'un est mort, l'autre a été battu, comme jamais je n'ai cru qu'on pouvait battre un être humain. Les 4 autres ont voulu se débarrasser de toutes leurs angoisses, l'un en se jetant dans le vide, l'autre en se cognant la tête contre un mur. Et tous avaient le regard gelé de la mort.
Che spanto causa il rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y trabajo?
Combien le visage du fascisme est épouvantable. Ils conduisent leur plan avec une précision diabolique, sans le moindre remords. Pour eux, le sang ressemble à des médailles. Massacrer est un acte d'héroïsme. Oh mon Dieu, est-ce donc cela le monde que tu as créé? Est-ce donc cela le fruit de tes 7 jours d'émerveillement et de travail?
En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente quiera más muerte, pero de pronto me golpea la conciencia. Y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas, y los militares mostrando su rostro de Madonna, matrona lleno de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que gritan esta ignominia.
Sur ces 4 murs, il n'y a plus qu'un nombre, un nombre qui n'avance pas, et finira lentement par désirer la mort. Mais soudain, je comprends mieux, cette marée n'a pas de cœur qui bat. Juste un pouls mécanique. Et je vois les militaires qui découvrent leur visage de sage-femme, plein de douceur. Mexique, Cuba, le monde tout entier, dénoncez cette ignominie.
Somos 10 000 manos menos que nos producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que las bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Ay, canto, que mal me sales.
Nous sommes 10 000 mains qui ne produisons plus rien. Combien sommes-nous à travers le pays? Le sang du camarade président frappe plus fort que les bombes et la mitraille. Et ainsi frappera de nouveau notre poing. Ah, mon chant, combien tu es amer.
Cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como que muero de espanto. Del verme entre tantos y tantos momentos del infinito. En que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento.
Quand de ma bouche sort l'horreur, l'horreur que je vis, l'horreur que je meurs, l'horreur. L'horreur de me voir ici parmi tous ces gens et ces moments d'infini où le silence et le cri achèvent mon chant. Ce que je vois, jamais je ne l'ai vu. Ce que j'ai ressenti et que je ressens fera naître le moment. Victor Jara est torturé, mutilé. On broie ses mains à coups de crosse de fusil et de bottes pour l'empêcher une bonne fois pour toutes de jouer de la guitare. Il est froidement abattu d'une balle dans la tête. On dénombrera sur son corps 44 impacts de balles. En l'espace d'un mois, le Chili perd 3 grands hommes. Allende, le poète Pablo Neruda, décédé dans des circonstances pour le moins troubles, et enfin Victor Jara. À l'annonce de sa mort, des centaines de personnes descendent dans la rue, bravant le couvre-feu mis en place au début de la dictature, et tous de scander d'une seule voix Camarade Pablo Neruda, présent, maintenant et pour toujours. Camarade Salvador Allende, présent, maintenant et pour toujours. Camarade Victor Jara, présent, maintenant et pour toujours.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas con la pelota de trapo con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro gateaba su corte edad.
En 2009, soit 36 ans après son exécution, Victor Jara est enterré solennellement accompagné de milliers de Chiliens pour qui le souvenir de Victor est encore vivace. Ses chansons résonnent aujourd'hui avec autant de force qu'à l'époque. En 2018, 8 militaires sont condamnés à des peines de prison ferme allant de 8 à 25 ans pour enlèvement, torture et assassinat du chanteur chilien. Le stade dans lequel est mort le poète a depuis été renommé Estadio Victor Jara.
Allende a toujours fait du peuple la clé de voûte de sa politique. Épris de liberté d'expression, il entendait consulter régulièrement par référendum. Il a toujours agi par des moyens légalistes dans le cadre de ses fonctions. Quant à Pinochet, fidèle à sa nature prudente, sinon peureuse, n'est pas le réel instigateur du coup d'État. Par contre, il en est bien le suiveur, puisqu'il a quand même pris le pouvoir et que... Le coup d'État a quand même parfaitement réussi et que, du fait du suicide d'Allende et le soutien d'une partie de la population, malheureusement, qui exhortait jusqu'ici une armée traditionnellement légaliste, il a donc pu laisser libre cours à son goût pour le pouvoir, l'argent, les femmes et son implacable cruauté. Une perspective somme toute démesurée pour un militaire sans envergure qui venait de sauver le Chili du communisme. Triste histoire. Alors, pour finir, il y a eu beaucoup d'exilés chiliens en France et je voudrais vous lire un témoignage d'Angélica qui s'est installée en France. Et c'est un peu tristouné parce que la place des femmes, déjà que d'une manière générale dans ce bas monde, elle n'est pas simple. Et là aussi, je vous lis. Voilà ce qu'elle dit. « Comme tout le monde, on s'est séparés, mon mari et moi. Les hommes étaient tellement contents avec les femmes françaises qui étaient plus libérées que nous et elles étaient jolies. Angélica va commencer à militer avec les femmes chiliennes et françaises pour le respect des droits des femmes dans le monde. Au Chili, il n'y a pas de la reconnaissance pour les femmes anonymes. Toutes ces femmes de prisonniers politiques qui ont dû nourrir leurs enfants, s'occuper de leurs compagnons en prison ou rechercher les enfants ou le mari disparu. Elles ne sont jamais prises en compte au niveau social et politique. Je trouve que c'est dommage. Ce n'est pas juste parce qu'on a fait partie activement dans l'histoire. Dans le collectif des femmes chiliennes, on était une bonne centaine de femmes et 90% étaient séparées. Ouais, c'est ce qu'on appelle la double peine. Voilà, et bien pour terminer ce récit à la fois magnifique et d'une grande tristesse, je vais juste vous rappeler déjà la BD, tome 1, Là où la terre se termine, tome 2, Le temps des humbles, donc de Désiré et Alain Frappier. Ces deux tomes, vous pouvez les trouver à la médiathèque de Florac. Après, il y a un troisième tome qui est sorti, qui s'appelle Et que se taisent les vagues, qui se trouve dans toute bonne librairie comme celle de Florac. Et puis aussi des films. Alors, il y a un film qui est magnifique. Je ne sais pas où vous pourrez le trouver. Moi, je l'ai vu en cinéma il y a longtemps, qui s'appelle Le Bouton de Nacre de Patricio Guzman en 2015. Retour en terre mapuche, parce qu'on n'a pas parlé non plus des populations autochtones, mais elles aussi, elles en ont bavé. Donc, Retour en terre mapuche, c'est de Stéphane Gox et Christophe Coelho, 2013. Et sur Arte, ça, il faut vraiment aller le voir, La bataille du Chili de Patricio Guzman. Voilà, eh bien, un grand merci Arthur pour ce magnifique récit qui donne un petit peu des frissons et qui rappelle quand même que la démocratie, c'est pas un truc facile.
Merci à toi Jacqueline pour l'invitation. Et je suis heureux d'avoir fait un peu revivre Victor Jara.
À bientôt.
Merci.
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.